Il est 8h.
On n'est pas en vacances, enfin, les journées sont même intenses. L'avantage, c'est que quand j'ai besoin de faire une pause, je vais aller me balader au bord de la plage et puis après, je repars et je recommence à travailler avec encore beaucoup plus d'efficacité.
Pour eux, le confinement, c'est une échappée belle vers une destination de rêve. Tandis qu'en France, on va le voir, les restaurateurs, les libraires, les gérants de salles de sport ne voient pas le bout du tunnel. Certains s'offrent un cadre idyllique, loin de l'anxiété des grandes villes. Bridgestone lâche ses 863 salariés. Catastrophe sociale et colère de Xavier Bertrand, le président de région. Dans ce journal, Sting, qui était sur la scène du Bataclan, le premier, un an après les attentats du 13 novembre. Le détail du procès qui se prépare dans quelques mois. Et puis un morceau de bois qui est aussi un bijou historique et musical, le violon qui fut celui de Mozart il y a 250 ans. Un album sort pour la première fois, enregistrement d'aujourd'hui sur ce même instrument.
Juste après ce journal, Bridgestone qui annonce donc la fermeture de son site de Béthune, notre politique industrielle interrogée. Les questions de souveraineté, de protectionnisme aussi. Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Je vous préviens tout de suite, vous allez les détester ou les envier au minimum. Ces Français, au niveau de vie très confortable, pour qui confinement et reconfinement ont été plus qu'un déclic. Cela a validé un changement total de leur rythme et même de leur habitat.
Alors pour eux, pas question de vivre avec le virus, comme on dit. Les attestations, les conférences de presse déprimantes, on va y venir. Ils profitent au contraire de tous les outils disponibles. Ils s'exilent dans des lieux nettement plus hospitaliers.
Prenez en Méditerranée l'île de Majorque, qui a perdu ses touristes, mais retrouve ici une source inespérée de revenus avec ses nomades numériques, comme on les appelle, et que Henri Delaguerie a rencontré pour Europe 1.
Elle a pris un vol pour Majorque début octobre et a laissé son appartement de la banlieue parisienne pour quelques mois. Spécialisée dans le recrutement, Vanessa Guyot travaille à son compte et d'où elle veut, tant qu'il y a une bonne connexion Internet.
En fait, je pars une bonne partie de l'année, souvent quand l'hiver arrive, parce que vivre à Paris, c'est les transports, c'est le monde, c'est beaucoup de stress.
Elle loge dans une jolie villa à 500 mètres de la plage avec d'autres nomades numériques. Elle a sa chambre et dès 8h du matin, elle est devant son ordinateur dans l'espace de travail partagé.
Non, on n'est pas en vacances. Enfin, les journées sont même intenses. L'avantage, c'est que quand j'ai besoin de faire une pause, je vais sortir, je vais aller me balader au bord de la plage et puis après je repars et je recommence à travailler avec encore beaucoup plus d'efficacité.
Pour une île comme Majorque qui souffre de l'effondrement du tourisme, ces travailleurs d'un nouveau genre sont un formidable plan B. Mathieu Zellas a ouvert la villa Lucky Paradise, là où se logent des nomades numériques.
Les chiffres parlent pour eux-mêmes. 1 milliard de digital nomades d'ici 2035. Demain, après le Covid, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'échapper de chez eux ou de leur domicile ou leur lieu de travail pour rejoindre des espaces comme les nôtres.
Devant l'essor de ce nouveau mode de vie, les autorités des Baléares travaillent sur des mesures pour attirer les travailleurs à distance et faciliter leurs démarches administratives. Majorque, Henri Delaguerie, Europe 1.
Voilà, nous étions à Majorque. C'est très inspirant, évidemment. Il faut le reconnaître, c'est très éloigné de ce que nous vivons.
Oui, pour les 45% de salariés du privé qui ont travaillé chez eux ces derniers jours, chiffre donné tout juste hier soir par le gouvernement, le quotidien ressemble plutôt à des galères de réseau Internet ou à des batailles pour savoir qui s'installera dans le salon ou dans la petite chambre.
Alors certains ont trouvé la recette pour jongler entre la vie pro et la vie perso. Dans la même journée et dans le même appartement, comme l'a constaté Élise Dangean auprès d'un jeune couple de Rennais.
Émy et Clément, en couple depuis 3 ans, sont devenus par la force des choses collègues de travail ou plutôt de télétravail. Pourtant, ils ont deux métiers complètement différents. Lui est chercheur en chimie organique, elle dans la communication publique. Des mondes différents réunis le temps d'un confinement, puis deux. Alors ils s'entraident et ça fonctionne.
Je l'utilise régulièrement comme calculatrice vivante. Après,
tu
je pense
déjà
que...
demandé de relire des choses.
Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même tellement différent. Je pense que là où on a le côté collègue, c'est pas forcément sur le contenu de notre travail, mais plus dans le côté couloir en off, en fait, qu'on pourrait avoir dans nos bureaux.
Télétravailler ensemble, c'est aussi mieux comprendre, voire découvrir le métier de l'autre.
Moi, c'est vrai que du coup, je vois très bien maintenant ce qu'elle fait et les coulisses.
Ouais. Bon, après, c'est vrai que j'apprends un peu tous les jours, un peu de chimie, quoi. À la fin, je vais me reconvertir à la communication scientifique et puis voilà quoi.
Malgré tout, Émy et Clément font très attention à ce que le perso ne l'emporte pas sur le pro. Fin de journée, on éteint les ordinateurs, on range ses affaires et on retrouve pleinement son conjoint.
Le télétravail, le click and collect aussi, des réalités persistantes de ce reconfinement. Les petits commerces ne rouvrent pas. Pas tout de suite. Peut-être au 1er décembre, mais rien n'est acquis.
Oui, parmi eux, les libraires et toute la profession du livre qui voient arriver la période la plus importante de l'année. Le statu quo, confirmé hier par Jean Castex, les met vraiment en danger. Pierre Arbulot.
Rien ne change, dit Jean Castex, sauf pour l'industrie du livre, répond Vincent Montagne. Elle va aller de plus en plus mal, explique le président du syndicat national de l'édition.
Pour l'instant, l'exécutif signe un arrêt de mort sur le livre. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un objet fragile, c'est un produit frais, c'est quelque chose qui ne peut pas être reporté.
Le livre est-il ou pas un produit de première nécessité ? Le gouvernement doit être au-dessus de cette question pour Marie-Rose Guarniani, libraire à Montmartre.
J'attends qu'il travaille avec des nuances. Le livre a une place particulière et qu'il faut sûrement régler cette question de la présence du livre et de l'ouverture des librairies avec beaucoup de subtilité, de nuances.
Malgré sa plateforme de vente en ligne et une implication 7 jours sur 7, son chiffre d'affaires est divisé par 2. Et pourtant, il est possible de réduire au maximum les risques de contamination, martèle l'écrivain Alexandre Jardin.
Toute la profession en ce moment est prête à faire des efforts, à ouvrir plus tôt, à fermer plus tard. Les propositions de toute la filière sont sur la table.
Éditeur, auteur, imprimeur, c'est toute la chaîne du livre qui est touchée quand les libraires sont fermés.
Et puis je voudrais juste vous faire entendre ce coup de gueule du chef Yves Candebordes. Il était avec nous en direct dans le journal de 7h tout à l'heure, car les restaurateurs, eux, sont sûrs de ne pas rouvrir au 1er décembre.
On est les sacrifiés de cette crise et à la limite, j'ai envie de vous dire, le Premier ministre a bien dit voilà, que ce serait irresponsable d'ouvrir les restaurants, bon, parce qu'on est des lieux voilà, où ce virus peut se propager. Alors qui nous accompagne, qui nous aide pour pouvoir survivre ? Il n'y a pas une entreprise au monde qui existe où on n'a pas de rentrée d'argent et où on ne fait qu'en sortir.
Le chef Yves Candebordes ce matin sur Europe 1. Alors dans ce climat inédit, on est très loin hein, du redressement productif qui faisait le titre du ministère d'Arnaud Montebourg, l'avocat du Made in France qui sera dans ce studio dans 10 minutes avec Sonia Mabrouk. Que dire de la casse sociale qui s'annonce à Béthune dans le Pas-de-Calais ?
Alors vous avez peut-être entendu un peu plus tôt dans la matinale d'Europe 1 ces deux syndicalistes de Bridgestone craindre le pire pour le moral de leurs collègues, alors que le groupe japonais a rejeté le plan de sauvetage des pouvoirs publics qui aurait permis de sauver 2/3 des emplois.
Oui, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, martèle qu'il ne laissera pas tomber les 863 salariés.
On ne jette pas les salariés comme des Kleenex. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent le maximum pour que les salariés puissent individuellement rebondir et pour que ce territoire puisse rebondir. Et nous, on a une responsabilité, c'est le bras de fer avec Bridgestone pour qu'ils mettent le maximum, notamment sur le plan social, et le maximum sur la revitalisation.
Xavier Bertrand, micro Europe 1 de Lionel Gougelot.
Ce même Xavier Bertrand, dont on sait qu'il fait de sa réélection à la tête des Hauts-de-France, la condition, telle une forme de primaire, à une future candidature à la présidentielle.
Et il attendra sans doute un peu, car les élections régionales se feront plus tard, en juin et non pas en mars. C'est le scénario vers lequel on s'achemine. Résultat du tour de table, pour une fois d'ailleurs consensuel, tour de table politique mené par Jean-Louis Debré, comme nous l'explique Adrien Beck.
Un consensus politique, c'est ce à quoi devait aboutir Jean-Louis Debré. Pour cela, l'ancien président de l'Assemblée nationale a largement consulté. Il a appelé l'insoumis Adrien Quatennens, s'est entretenu ces derniers jours en visioconférence avec Marine Le Pen, a échangé avec Renaud Muselier, le président des régions de France. Résultat, des Républicains aux insoumis en passant par l'ERN, tout le monde est à peu près tombé d'accord pour un scrutin en juin. Ça nous enlève une belle épine du pied, constate un conseiller de l'exécutif. Ça ne change rien, de toute façon, c'est pas 3 mois de plus qui vont nous donner des candidatures magiques, ajoute un autre. Cette fois, Emmanuel Macron et Jean Castex ont donc fait mine de regarder tout cela de loin. Il s'agissait de tout faire pour éviter de rejouer le fiasco des élections municipales en forçant les oppositions à prendre leurs responsabilités, même si personne n'est encore capable de prédire quelle sera la situation sanitaire en juin 2021.
Les élections américaines, on dépouille toujours, 9 jours après le scrutin, mais Joe Biden ne peut plus être rattrapé en Arizona. Il conforte donc son avance en termes de grands électeurs, 290 contre 217 pour Donald Trump, qui d'ailleurs conteste, lui, toujours le scrutin, en contradiction avec sa propre agence fédérale de cybersécurité.
8h09 sur Europe 1. Il y aura bien des commémorations aujourd'hui sur les lieux des attentats du 13 novembre 2015, mais en petit comité, pour raisons sanitaires.
Et ce matin, Mathieu, vous avez voulu recevoir celui qui, le premier, a refait entendre de la musique sur la scène du Bataclan, le chanteur, auteur, compositeur Sting, qui a joué le 13 novembre 2016. Et ce matin, à votre micro, il évoque le climat du moment pris entre toutes ces crises.
Il y a beaucoup de colère, de discorde. C'est le travail des musiciens de créer de l'harmonie. Le monde devrait commencer à vibrer à une fréquence plus paisible. Il y a beaucoup de discorde et de colère aujourd'hui, et cela vient souvent des hommes politiques.
Alors, est-ce que vous avez un mot en français ce matin pour les auditeurs d'Europe 1 hein?
En fait, j'en ai trois.
Liberté, égalité et fraternité.
Voilà, la devise de la France dans ce tête-à-tête entre Sting et Mathieu Béliard ce matin. C'était à 7h40, vous le retrouvez d'ailleurs dès à présent sur europe1.fr.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Les suites judiciaires du 13 novembre, c'est un procès hors norme dans quelques mois, mais qui se prépare déjà.
Oui, quelques chiffres déjà. 1700 parties civiles, plus de 300 avocats, 20 accusés, un dossier d'1 million de pages, 6 mois d'audience. C'est vertigineux, à commencer par l'organisation matérielle, puisqu'une salle en dur est en construction dans la vaste salle des pas perdus du palais de justice de l'île de la Cité à Paris. Et pour la petite histoire, il a même fallu démonter avec d'infinies précautions une partie du magnifique dallage en marbre noir et blanc au sol pour en supporter le poids. En tout cas, le chantier est bien avancé, ce sera une grande salle de plein pied qui devra combiner des exigences de sécurité élevées et une gestion des flux de personnes, car vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de monde.
Alors Chloé, c'est une très grosse organisation aussi pour les avocats.
Oui, un petit noyau d'avocats de partie civile a décidé de mettre en place des groupes de travail. Il y a d'ailleurs une réunion ce matin même. Le but, être efficace pour la justice, comme l'explique l'une d'entre elles à l'origine du projet, maître Claire Josserand-Schmitt.
À ma connaissance, c'est la première fois. Là, en l'occurrence, la confraternité est de mise. Nous nous répartissons l'étude des cas des accusés et nous répartissons également des études thématiques qui vont jalonner les débats pendant ce procès.
Enfin, côté victime, eh bien là aussi, on se prépare. L'association Life for Paris, par exemple, a emmené une douzaine de personnes à l'audience Charlie Hyper-Cacher pour se familiariser à un procès. Enfin, ce qui est à l'étude aussi, c'est le projet d'une web radio sécurisée qui permettrait aux victimes de suivre à distance et en léger différé ce procès historique.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et dans ce contexte, la ministre des Armées, Florence Parly, annonce ce matin la neutralisation d'un haut cadre d'Al-Qaïda au Mali. Il s'appelait Bahag Moussa. Neutralisation par les forces françaises, opération menée mardi dernier.
On a entendu Sting il y a quelques instants sur Europe 1. Croyez-vous qu'on puisse faire encore plus mythique? Eh bien oui, on va rester dans l'univers de la musique avec cet objet exceptionnel dont la caisse de résonance va sonner à nouveau.
C'est un petit objet de bois, un violon, celui dont Mozart lui-même a fait vibrer les cordes lors d'Autriche. Pour la première fois, un violoniste autrichien vient d'enregistrer les 5 concertos pour violon de Mozart avec cet instrument exceptionnel.
Oui, c'est un violon âgé de 300 ans, d'une couleur foncée. Ce n'est pas un Stradivarius, on ne connaît même pas le nom du luthier qui l'a fabriqué. Mais voilà, Mozart a joué et donné ses concerts sur cet instrument jusqu'à ses 25 ans. Un violon au son brillant et chantant, tout ce qu'aimait Mozart. Le violoniste autrichien Christoph Kontz, membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, a pu le sortir du musée de Salzbourg. Il a fallu apprivoiser l'instrument 4-5 heures par jour, ne pas se laisser intimider. Et puis le violoniste a eu la magique impression de parler directement avec Mozart.
Ils m'ont donné le violon dans mes mains, ils ont fermé la porte et j'étais tout seul pendant 3 ou 4 heures. Et j'ai vraiment joué tous les concerts de Mozart tout de suite, j'étais trop content. Le registre aigu, c'est très très joli, je pense, et on peut vraiment faire de la musique en chantant, vraiment. Depuis la mort de Mozart, en fait, je pense que je suis la personne qui a travaillé le plus sur cet instrument.
Le son qui sort de ce violon, c'est probablement celui que Mozart produisait lui-même. C'est comme un saut dans le passé, au XVIIIe siècle.
Voilà, il est tout guilleret, ce violon. On dirait pas qu'il a 300 ans, il est presque même prime sautier. Et c'est Lord Autriche, la violoniste d'Europe, hein, Lord Autriche.
Oui, parce que si vous me le mettez dans mes mains à moi, il sera pas prime sautier, le violon. Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h14.